Et bonsoir, bienvenue sur le Cast Rétro, ton podcast rétro gaming. Et ce soir, on va parler de Resident Evil 4. Pour cela, j'accueille Ange Calot et Wiper16 pour parler de ce jeu sous toutes ses coutures. Bienvenue à vous deux, comment ça va?
Bon, ça va bien, merci, et toi?
Eh ben ça va. Et bienvenue Wiper également, comment ça va?
Merci pour l'invitation, je vais super bien, très excité et content de cette invitation de participer, je suis même honoré, j'aime bien le dire, parce que chaque occasion, chaque opportunité mérite sa reconnaissance, et du coup merci à toi aussi pour ta confiance, et puis voilà, de faire une super soirée autour d'un sujet très passionnant.
Et bah oui, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce Resident Evil là, je pense qu'on aura peut-être l'occasion aussi de vous revoir dans d'autres émissions, puisqu'on parlera d'autres Resident Evil bien sûr. J'ai choisi le 4 aujourd'hui parce que c'est celui qui me touche le plus. Et du coup, on va vous présenter. On va peut-être commencer par Ange Calot, si tu veux bien.
Angelo, de son nom du coup d'internet, Ange Calot, et pas Ange Calot.
Oui.
quelqu'un du coup qui est, je me déclare comme curieux de la licence Resident Evil Biohazard, parce que voilà, j'aime quand même énormément la licence globalement, parce que je dis bien la licence, je m'arrête pas qu'au jeu, ou voilà, je parle un peu de ce qu'il y a autour. Je collectionne aussi du coup ce qui est lié à la licence Resident Evil Biohazard, avec quasiment 700 objets au moment où on parle. Tout ce qui est de ma collection, j'y montre sur mon Instagram et sur mon TikTok, aussi okay. Un peu dans mes shorts sur YouTube. Et du coup, pour parler de YouTube, j'ai deux chaînes, donc la première Ange Calot, où du coup, j'ai un format principal qui s'appelle Bienvenue dans ma Room, où je parle de globalement ce que j'ai envie, mais voilà, principalement du Resident Evil, ouais. Avec notamment en général, j'essaye chaque semaine de faire un épisode d'info et rumeurs pour parler de l'actu Resident Evil Biohazard, et puis sinon d'autres vidéos où je reviens sur des trailers, des analyses, des trucs comme ça, donc voilà, un peu globalement. Et ma chaîne secondaire, du coup, les archives Resident Evil Biohazard, pour parler de Resident Evil globalement, donc il y a la section développement, où il y a encore une fois des vidéos de l'ami Wiper qui sont présentes avec ses guides explicatifs qui vous parlera juste après. Et sinon, après, il y a des vidéos Let's Play, ou Let's Watch, Let's Read, voilà, ça arrivera prochainement. Il y a aussi, du coup, des vidéos lore, donc je prends des personnages, tout ça, et puis je raconte un peu leur histoire dans les grandes lignes, ce qu'il y a à savoir d'important. Des vidéos documents, du coup, je récupère, notamment encore une fois grâce à des amis, notamment Wiper, les documents des jeux, et que je montre, que je lis, du coup, directement sur YouTube, comme ça, voilà, si quelqu'un cherche un document. Il a pas besoin de relancer le jeu, c'est disponible à apporter. Et il y a les vidéos, du coup, aussi lieu. Okay. Voilà, donc les vidéos lieu où je prends une pièce par pièce des jeux et puis du coup, je décris ce qu'il y a dedans. Donc, les armes, ce que vous pouvez trouver en armes, en munitions, tout ça, en fonction des difficultés. Donc, voilà.
Trop bien.
Voilà.
Du coup, Wiper, pardon, excuse-moi si je veux te présenter.
Ça marche. Bah, du coup, moi, Wiper16, je m'appelle David aussi. Du coup, je suis un grand fan aventurier sur la licence Resident Evil. Donc, je parcours tous les jeux depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, moi, j'ai une de mes spécialités, c'est que je possède quasiment le 100% intégral de tous les jeux existants, quasi de la licence, qui est une première en France. Je me suis rendu compte avec des années d'expérience et de discussion, autant spécialiste que fan. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est aller dans la profondeur des choses, c'est-à-dire aller tout comprendre d'une œuvre jusqu'à analyser le moindre détail, les easter eggs, les références, les anecdotes, comprendre un peu l'histoire, le lore, les musiques, parce que j'ai un attrait musical. Ouais. J'essaie de mettre tout ce que j'ai appris dans la vie pour aussi comprendre un peu mieux ces œuvres. Et du coup, je suis connu pas mal pour être intervenant. Donc, j'ai fait des podcasts pour le site residentevilfr.com, qui est le deuxième site connu après les Arts France. Ensuite, j'ai été commentateur pour la chaîne Speedrun File avec Shin Phoenix, qui est le sept fois champion du monde du jeu Trial, qui a été Xbox Squad, qui a travaillé pour Ubisoft, etc. En tant que joueur professionnel de Trials. J'ai également été commentateur pour l'ESA Marathon, un événement caritatif en Suède, où j'ai commenté la performance de Distortion 2 pour la sortie d'un Antivol 2 Remake. Okay. Parce que j'ai été speedrunner, je suis classé mondialement sur le 2 Remake, j'ai été top 10 sur Resident Evil Portal, le site officiel de Capcom, sur R7. notamment le DLC Cauchemar. Et ensuite, voilà, j'ai fait, comme je t'avais dit un petit peu off, j'ai également été, j'ai fait des podcasts avec un ami qui s'appelle Mehdi, donc de la chaîne M le Mehdi.
Oui.
Sur Resident Evil Village, on a reçu Bruno Roca, Guillaume Béchelier et Amir Zellal, qui sont tous des pros de l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Amir avait travaillé pour Square Enix et Guillaume Béchelier est un professeur, quelqu'un qui est agrégé en art, oui. Un docteur agrégé en art, je ne sais plus son titre exact. Je l'ai plus de tête, mais c'est une grande personne, voilà, qui a notamment fait des thèses pour le musée du Xénomorphe à Lyon, etc. Voilà, quelqu'un assez connu, un chercheur. Et du coup, voilà, j'ai fait beaucoup d'émissions comme ça. Souvent, je perds un peu le cumul parce que ouais, depuis le temps, j'ai beaucoup accumulé d'activités chez beaucoup de gens.
Ouais, t'as un gros CV, du coup.
Donc voilà, c'est ça. Je considère avoir parce que je suis arrivé sur Internet depuis 2018 publiquement, et je considère ouais qu'en 4 ans, j'ai fait pas mal de choses.
Non, mais tant mieux. du coup, bah, le jeu, il sort en 2005 hein, chez nous. Il sort sur GameCube et il y a eu beaucoup de portages. Je ne sais pas si vous connaissez justement tous les portages qu'il y a pu avoir sur ce jeu, parce qu'il y en a que j'ai découvert même en faisant mes petites recherches. Est-ce qu'il y en a un de vous justement qui veut parler de ça, peut-être Wiper ?
Alors, j'espère ne pas me tromper parce que c'est souvent un des jeux le plus difficile à lister. Mais ouais, okay. Je pense qu'en mots-clés, ça sera pas mal. Mais globalement, elle est sortie sur GameCube en premier lieu, qui a été sa première réputation et succès, même si à l'époque, il n'a pas vraiment eu autant de succès qu'on puisse le penser.
Oui.
Ensuite, il a été porté sur PS2, il a été porté sur Wii, il oui. a été porté sur Mobile Edition, donc on appelle ça le Resident Evil 4 Mobile Edition, je crois que c'était Android ou iOS, je ne sais plus.
Je pense que les deux.
Ensuite, il a été porté également sur une console plus obscure qui s'appelle la Zeebo, donc l'édition Zeebo.
On peut juste faire un petit point sur la Zeebo. Juste pour dire aux gens, c'est une console qui était uniquement des maths, si je dis pas de bêtises.
Exclu tiers-monde de ce que je m'étais renseigné.
C'est ça, ouais, qui était présent notamment en Russie, en Brésil. Ouais, c'est ça. Sur des pays émergents, et qui était uniquement des maths, et qui a eu aussi la chance d'avoir Resident Evil 4 en portage. Voilà. Ouais, je te laisse continuer parce que t'étais bien parti.
Non, pas de souci. Du coup, ensuite, il est sorti sur PC, donc Steam, avec beaucoup de mods, etc., qui a permis de peaufiner le jeu. On en parlera un petit peu en détail, surtout sur un mod qui mérite sa mention.
Oui.
Et surtout, il y a eu, voilà, après plus les consoles récentes, donc on a eu PS4, Xbox One, maintenant PS5, Xbox Series X, etc. Je sais pas si j'oublie une plateforme, justement, mais
il y a PS3, Xbox 360.
PS3,
exact.
Justement, il était sorti avec la Biohazard Revival Selection, qui était exclue au Japon, qui était la première version HD physique. Et du coup, après, il est ressorti un peu plus tard en français pour chez nous. Mais au début, c'est vrai que c'était beaucoup. Cette version première HD était exclue japonais avant que nous, on l'ait accès.
On puisse l'avoir, oui, tout à fait. Et c'est vrai que. C'est assez impressionnant le nombre en fait de plateformes sur lesquelles le jeu a été porté. Il y a la Switch du coup aussi maintenant avec le remake.
Maintenant avec
la version VR.
Ouais, c'est ça.
La version VR sur le MetaQuest 2.
Hey, et la Wii U, on nous dit, c'est vrai que il y a la Wii U également. Donc en vrai, je pense qu'elle a
Wii
été.
Il était compatible Wii, je pense, en mettant le disque.
Il y avait sur le eShop. Ouais, il était disponible sur le eShop. Donc vraiment. Je pense qu'il a fait, toutes les plateformes depuis qu'il est sorti sur GameCube, donc c'est assez fou. Et il a même été sur mobile, c'est vrai que ça, peu de gens le savent, mais il était quand même en version mobile, donc c'est assez impressionnant. Et du coup, vous, le premier contact, je sais pas, bah du coup, Ange, je sais pas si tu veux nous dire, le premier contact que tu as pu avoir avec ce jeu, c'était quand ?
Alors pour moi, c'était entre 2006 et 2008, c'était avec mon frère, parce que je restais souvent avec lui, donc je suis 99, donc du coup à l'époque j'avais 7 et 9 ans en gros, et voilà, je restais beaucoup avec lui et puis il jouait à ce jeu là et ça m'avait ultra intéressé. J'avais même fait un petit dessin, tout ça, parce que j'étais vraiment fabulé devant l'histoire, tout ça, et j'avais adoré. J'avais tellement adoré, il avait tellement compris que j'avais adoré, qu'une fois qu'il avait fini sa run, il m'a mis le manette en main et il fait bah tiens, attends ça à toi, je t'ai acheté. Ah, pour vous préciser, voilà, à l'époque, moi, j'étais plus dans les délires Mario Sonic. Donc, passer de Mario Sonic à du Resident Evil d'un coup, c'est quelque chose qui a perturbé tout ça.
Et pour toi, Wiper, du coup, c'était à quel moment, tu te rappelles?
Ouais, je me rappelle, c'était l'année de sa sortie, donc 2005. Moi, j'avais une histoire assez particulière, c'est que dans le sens où, bon, je savais que j'étais plus jeune, j'étais peut-être pas forcément donc, dans des âges vraiment adaptés et tout, mais j'ai toujours eu une famille assez ouverte là-dessus et compréhensible sur ces domaines. Et surtout, c'est que moi, mon premier souvenir que j'ai quand on me parle du 4, c'est qu'en fait, moi, je me rappelle à l'époque voilà, de ces moments que tout le monde connaît avec le magasin Micromania. On part en fait pour acheter Mario Kart. Rien à voir. Et en arrivant, je vois sur une borne un trailer diffusé. Et en fait, je suis attisé. Je me dis, il est bien énigmatique ce trailer. Et je vois que ça parle en fait d'une des versions qui sera surnommée 3.5. Et il y a ce trailer super flippant du château, de ses couloirs, ses angles et du fameux délire d'hallucination. Mais en même temps, ça parlait de Lookman et tout. Et moi, qui étais avec mon grand frère et un ami à cette époque-là, on est fascinés. Il savait que j'étais fan de RE et du coup on était en mode oh c'est le prochain RE, c'est le 4 et tout, waouh, technologie, c'est une claque. Et vraiment c'est le premier souvenir que j'ai eu avant, après que bien sûr le jeu sorte dans les mois, années qui suivent. Et du
Ouais.
coup voilà, j'ai été premier possesseur aussi rapidement comme beaucoup de joueurs à avoir eu la GameCube spécialement pour les RE. On les avait pris pour avoir le 4, le 1 remake et le 0.
D'ailleurs, c'est vrai que c'est pour ça que ça serait intéressant, je pense, de refaire des émissions aussi sur d'autres RE qui ont eu le droit à des versions, notamment sur GameCube, qui sont plutôt bonnes. Et moi, j'ai vraiment souvenir d'avoir découvert RE sur la PS1 à l'époque, mais vraiment redécouvert. Tous ces jeux sur la GameCube, quoi. Ça a été vraiment particulier. Et pour ma part, d'ailleurs, bah, j'ai eu le jeu, pareil, je pense, quasiment Day One. J'avais une GameCube, déjà, par contre. J'étais fan de Nintendo, donc j'avais déjà ma GameCube. Et 2005, c'est une des premières années où j'ai travaillé et où je pouvais me permettre, justement, bah, d'acheter un petit peu de jeux. Donc je m'étais vraiment fait plaisir et j'avais eu ce Resident Evil 4 Day One. Et j'étais dans une ville loin de ma famille et du coup, bah, ça m'a permis de jouer à tout ça, donc ça c'était plutôt intéressant. Du coup, est-ce que vous vous souvenez un petit peu bah, du marketing? T'en as parlé avec justement les trailers du 3.5, mais un petit peu les publicités, la presse, etc. Et peut-être même le packaging de ce RE quand il est arrivé.
Pour parler vite fait, j'avoue que j'ai pas sur ce RE, j'ai pas énormément de souvenirs parce que moi, comme j'étais assez encore gamin à cette époque-là, j'ai des souvenirs forts de certaines choses, mais je ne sais plus exactement marketingement. Moi, j'ai beaucoup m'enseigné sur le 4 des années plus tard. Je dirais même encore récemment, je dirais encore il y a 2-3 ans, j'ai encore appris un peu comment c'était certains magazines, certaines images, parce que quand je cherchais des anecdotes et tout. Donc, j'ai pas, à part justement les trailers, je dois peut-être avoir un magazine possiblement français que mon père devait avoir qui a dû m'évoquer avec des images du 4, mais honnêtement moi c'était beaucoup des vidéos, mais j'ai pas énormément personnellement là de fonctionnement marketing à l'époque.
Ouais, en fait, tu l'as redécouvert sur le tard, du coup.
Je l'ai redécouvert sur le tard côté, on va dire, renseignement, développement, marketing. Sur ce côté-là, ouais, ça a été avec les années. Moi, c'était plus, à cette époque-là, ouais, j'étais plus sur le jeu vraiment en direct. Je sais mieux m'exprimer là-dessus parce que je l'ai vraiment vécu.
Bien sûr.
Mais le côté pur renseignement, ça a été un des premiers héros, en fait, où ça a été compliqué parce que, je sais pas si on développera exactement notre avis, mais moi, ça a été un petit peu difficile ce jeu à l'accueil. Du
Ouais.
coup, c'est pour ça que j'ai des souvenirs entre des choses que j'ai appris positivement, mais j'ai beaucoup un passif négatif avec R4,
Non, mais
on va dire.
on en parlera justement quand on parlera vraiment du jeu en lui-même et de l'accueil que vous avez pu en avoir. On en parlera bien évidemment parce que ça a été un tournant dans la page de
Exactement.
Resident Evil. Donc, ça va être intéressant. Et toi, Ange Calot, du coup, est-ce que tu te rappelles un petit peu de tout ça?
Bah moi du coup non, vu que j'ai connu via mon frère et puis la
Ouais.
licence Resident Evil, je me suis vraiment beaucoup plus intéressé en 2015 avec le début vraiment de ma collection. C'est vraiment là où je me suis dit, allez, tu vas te lancer dedans parce que l'univers te plaît beaucoup. J'avais tenté il y a 10 ans notamment de faire les premiers et tout ça via un pack sur PS3. Mais c'est là où ce qui peut être cool niveau marketing, c'est qu'on a la chance d'avoir via internet, on peut retrouver des spots TV, tout ça. Et il existe même des livres comme par exemple celui-là, le Biohazard Arts Collection. Donc ceux qui sont en podcast, ils pourront pas le voir, mais voilà, vous savez qu'il existe. juste
mais vous pouvez le saisir sur internet pour le trouver, il y a pas de souci.
Et puis on peut retrouver du coup dans des pubs, dans des promotions. Et du coup, ce que j'ai bien aimé moi avec la campagne marketing de RE4, c'est qu'il y avait ce délire là avec ces pubs là où en gros ça mettait comme s'ils étaient interviewés au milieu d'une foule, tout ça. C'est vraiment un délire que j'ai bien aimé en redécouvrant le marketing, c'est qu'il y avait ça avec plein de personnages vraiment promo pas habituel en fait, vraiment comme si voilà, il y avait vraiment une promotion en IRL avec le jeu, tellement que voilà, je pense que vu que les designs étaient meilleurs que par exemple sur PS5, tout ça, avec des trucs, ils ont voulu essayer de faire une incrustation si c'était réel. Et voilà, donc la campagne marketing d'RE4, ça devait être folle, je pense. Donc là, c'est un truc japonais. On retrouve même celui avec Ada ici présent. Donc voilà, c'est un délire, je pense, qui devait être bien cool à l'époque. Je sais pas si on parle du remake ou pas en même temps.
Si on peut en parler, parce que malgré tout, il a eu aussi sa communication à lui, et qui a été, je pense, plutôt très bien faite.
Assez discrète, même, je trouve, perso.
Ça a été dû à des...
Ouais, il manque un peu de contenu. Par exemple, quand on compare avec celle du RE4 original, il manque de contenu. Le seul truc vraiment intéressant et très cool, c'est le petit animé qu'ils ont fait en 3 épisodes, qu'ils ont fait avec le studio derrière, je crois, un peu des trucs d'animation japonais connus, genre... Il y en a qui disaient Heidi notamment, le délire un peu comme ça, et j'ai adoré ce petit animé en 3 épisodes. Bon, après, c'est exclu Japon dans le langage. Il peut y avoir des sous-titres anglais ou français qui sont faits, notamment. On peut remercier BioWare France, qui font un travail excellent de ce côté-là. Mais voilà... Je trouve personnellement que la promo du 4 remake, je l'ai trouvée moins intéressante que celle du 4 original. Après voilà, on n'est plus dans les temps comme avant. Là, maintenant, des trailers, ça peut se lancer sur YouTube et hop, tout le monde y a accès. Ouais. Qu'avant, il fallait des pubs dans des magasins, il fallait des affiches, des trucs comme ça pour vraiment faire parler du jeu. Alors que maintenant, ils vendent juste un trailer, ils savent que ça va faire le tour du monde. Quoi, donc.
C'est sûr. C'est vrai que je pense qu'il y avait beaucoup plus de PLV, de choses dans la presse, et même de... Tu vois,
magazine.
Il y avait... Ouais, des magazines, des bornes qui avaient été mises dans les magasins, etc. C'est des choses qu'on va plus retrouver aujourd'hui parce que on va se mettre sur des trailers. Après, les trailers, par contre, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même bien faits.
Ouais.
Et ils ont montré directement la direction vers laquelle ils voulaient emmener le Resident Evil 4 grâce à ce remake. Donc ça, j'ai plutôt bien apprécié et je l'ai bien accueilli en ce sens. Après, moi même, tu vois, j'étais déjà âgé entre guillemets, j'avais une vingtaine d'années à la sortie de Resident Evil 4. J'ai souvenir qu'il y en avait beaucoup. Alors, en fait, ce qui était intéressant, il y avait des bandes de démo. Ça, c'était vraiment quelque chose de très très fort. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont pu revendre justement des packs de GameCube pour RE4 parce qu'il y avait des démonstrations et les gens étaient bluffés de voir ce RE en 3D très bien fait. Mais après, la presse en a beaucoup parlé aussi. Et du coup, Wiper, tu parlais tout à l'heure justement du trailer qui était basé sur ce qu'on a appelé plus tard Resident Evil 3.5. Et du coup, toi, t'en as quand même souvenir de ce trailer-là?
Ouais, moi je m'en souviens, très très bien, parce que c'est un trailer qui m'a marqué et surtout qui m'avait fantasmé, dans le sens où quand j'ai vu la direction que ça prenait, je me disais waouh, on va avoir un jeu horrifique mais de malade mental. Faut savoir que la seule licence qui me provoquait ça à l'époque, c'était sa concurrente que tout le monde connaît, Silent Hill. Oui. C'était la seule qui avait vibré des nombreux joueurs. Donc avant la sortie du 4, on est habitué au 2, au 3. Puis on se dit le prochain Resident Evil, donc ce 4ème opus, là il envoie du pâté. Déjà on retrouve Léon, on est content. Ben, on sait pas trop, mais on voit le design, on se dit ah, ça a l'air d'être Léon S. Kennedy, ouais, c'est la suite du 2 et tout. T'as un château, t'as des angles vraiment très travailler, t'as une ambiance super flippante, on retrouve des clins d'œil, hommage à 96, on a un couloir avec une salle à manger, on se dit ah putain, hommage au manoir Harkley, etc. Donc on sait que ça va revenir sur des choses fondamentales, donc on sait que ça parle de possiblement un retour de Spencer, qu'on va approfondir cet arc, qu'on parle du virus progenitor, etc. Donc on sait qu'on revient sur des origines mélangées avec une infection du personnage principal, de ce qui est montré du trailer, et du coup c'était vraiment quelque chose qui avait mis une claque, et pour finalement apprendre que ça sera malheureusement annulé.
Ouais.
Et qu'en fait, que quand on veut creuser un petit peu, qu'on regarde un peu les articles de l'époque, etc., et on se rend compte que waouh, c'est l'un des projets, bon, un peu habituel avec Capcom, mais surtout sur RE, qui devient mais extrêmement chaotique. Et on parle à ce jour de 6 versions quand même en termes de bêta. C'est vraiment la 6e qui sera le 4 qu'on connaît, mais il y a eu 5 bêta avant, dont une qu'on a zéro info et 4 qui a eu des infos plus ou moins recherchées, donc certains du contenu, d'autres un peu flou. Et c'est un peu cette version qui va rendre un jeu d'énigmes avec, avec les fans et avec un peu Internet et un peu l'époque aussi, ça va dans tous les sens. Les théories, les mythes, etc. Jusqu'à 2023, on en parle encore.
Non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est un peu le début, ou en tout cas la démocratisation d'Internet, et où on commence aussi à avoir des choses comme ça, des rumeurs. Avant, on pouvait se baser que sur ce qui était présenté.
Des magazines.
Voilà, et notamment sur les magazines. Et là, on avait pour ce RE-là une particularité, c'est que vraiment Internet se démocratisait et les rumeurs allaient aussi de bon train sur Internet, quoi, clairement. Et du coup, on va passer au lore, et je pense que là, du coup, on va avoir beaucoup de choses à dire.
Donc du coup, pour Resident Evil 4, on retourne au personnage principal, Leon S. Kennedy, donc qu'on avait rencontré via Resident Evil 2 de base. Donc il était un jeune policier arrivant à Raccoon City pour son premier jour. Du coup, voilà, il a vécu toutes ces atrocités, il a réussi à s'enfuir de la ville, sauf que du coup, on apprend qu'il était récupéré par le gouvernement, qu'il était entre parenthèses forcé de suivre un entraînement, tout ça, parce qu'il voulait la protection de Sherry Birkin, l'enfant du coup de Resident Evil 2. Et ça, après, via d'autres jeux, on apprend qu'il y a eu des petites missions, voilà, de l'entraînement, tout ça entre temps. Et voilà, du coup, il est agent spécial directement sous les ordres du président dans Resident Evil 4 et il va devoir sauver sa fille. On retrouve aussi de Resident Evil 2, on a Ada Wong. Donc Ada Wong qui est une espionne pour une organisation rivale d'Umbrella. Qui est envoyé à Raccoon City dans Resident Evil 2 pour récupérer le virus G, qui s'attache énormément à Léon, ce qui causera un peu les foirages de sa mission de récupérer le virus G. Elle va être déclarée morte après cela suite à une petite chute. Dont on sait pas comment elle remonte, mais bref, c'est la magie. Et puis il y a tout un côté mystère qu'ils essaient de faire avec la saga, avec certains personnages. Donc voilà, il y a un côté mystère qu'ils essaient de garder. Donc Ada Wong, que du coup qu'on retrouve de nouveau sous les ordres de l'organisation rivale et en lien du coup avec Albert Wesker, qu'on avait rencontré notamment dans le premier Resident Evil ou encore dans Code Veronica. Voilà, pour parler des jeux un peu principaux qui sont sortis avant le 4, on a Ashley Graham, donc la fille du président qu'on doit récupérer. Donc il y a une vingtaine d'années, je préfère le préciser parce que beaucoup pensent que dans l'original elle a 15-16 ans, alors que non, elle a bien une vingtaine d'années. Donc voilà, j'aime bien le préciser en général quand je parle d'elle. Et puis après, voilà, on se retrouve la secte de Los Illuminados qui voit un culte au parasite Las Plagas, qui du coup se trouve sous le château des Salazar, qui a été enfermé sous le château des Salazar, et qui a été du coup libéré par le dernier châtelain, donc Ramon Salazar, pour du coup le fournir aux Los Illuminados pour qu'il puisse en quelque sorte renaître globalement. Et du coup voilà, cette petite secte a voulu du coup a pris possession du village, du château et de l'île, même si l'île, on comprend dans les mecs que c'est plus leur fief qu'ils avaient un peu reculé pour vivre entre eux de base avant de faire l'accord avec le Ramon Salazar. Et du coup leur but c'est en gros de contaminer la fille du président pour qu'elle serve de cheval de Troie pour du coup la ramener ensuite au gouvernement américain pour voilà, après voilà, de fil en aiguille, de pouvoir contrôler le monde.
Ouais, propager le virus et contrôler le monde. Ouais, le parasite, pardon. Non, autant, tu peux bien le préciser, parce que non, mais c'est important. Parce que du coup, c'est plus le virus G. Donc, c'est
ça, il n'y a plus de virus T, il n'y a plus de virus G. Ouais. On est sur un parasite Las Plagas, même si on avait déjà resté le 3 qui nous plaçait l'idée de parasite avec le parasite Nu Alpha du Nemesis, et même un peu le côté virus G, parce qu'il y a côté un peu parasitisme avec les G-embryons qui se mettent dans un corps, et que bah, s'ils sont compatibles, du coup, ils parasitent le corps, et ils transforment la personne en G-mutant.
Exactement.
Ouais, il y avait quand même une espèce de début d'idée de parasite.
Exactement.
Il sera accentué par la suite via une interview de Resident Evil 3 Remake où ils disent qu'en gros, le parasite Nu Alpha du Nemesis, c'est une tentative artificiellement de recréer le Las Plagas. Voilà, ils essaient de lier un peu les trucs par la suite.
Ok. Merci. Et du coup, tu fais bien aussi de préciser sur l'âge de Ashley. Parce que je pense que, donc déjà, le chara-design de l'époque était peut-être moins compréhensible que ce qu'on peut avoir aujourd'hui.
Ouais.
Mais il y a aussi le fait que son inaction perpétuelle fait qu'on a considéré peut-être qu'elle était plus jeune et que c'est pour ça aussi qu'elle avait moins de phases d'action que ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec le remake. Donc, alors je ne sais pas si on peut parler justement des différences qu'il y a eu avec ce remake, aussi bien en termes de visibilité du jeu et de compréhension du jeu peut-être.
Le 4 remake avec son nombre de documents de beaucoup plus important permet d'avoir beaucoup plus d'informations, notamment on a des ancêtres à la fois de Salazar, on a à la fois les ancêtres de Sadler par exemple, on a la création des Novistador par exemple qui est expliquée avec leur nom de code. Donc le 4 remake, c'est un point que j'ai vraiment adoré, c'est qu'il prend l'histoire de base, il la laisse quasiment à intact et il l'améliore. Il y a vraiment du plus quasiment partout là, pour moi. C'est vraiment un point que j'avais avec le 4 original, c'est qu'il me manquait un peu de connexion, vraiment de lore. L'histoire était assez, j'ai envie de dire, basique dans le fond. Mais là, le remake, il l'a vraiment sublimé et accentué tout ce qu'il y avait à voir en lore. Voilà, plein d'informations en plus, chose que moi, qui me plaît énormément.
Ouais, non, mais et c'est ultra important parce que c'est vrai que il y a peut-être des gens qui vont découvrir RE4 par le remake. Il faut comprendre que de base, nous, il nous manquait des choses, quoi. Moi j'avais trouvé qu'il manquait quand même des choses, même si c'est je pense mon héros préféré. Il manquait des choses à l'histoire et ce remake permet de combler tout ça.
Bah, par exemple, le cas qu'on peut évoquer, c'est le cas de Crozer. Dans le remake, il arrive comme un cheveu sur la. Dans l'original, il arrive comme un cheveu sur la soupe. Et on est là en mode, mais c'est qui? Pour Léon, il le connaît tout ça. Et donc il a fallu attendre et essayer Darkseid Chronicles qui est sorti en 2009 pour avoir l'opération Ravière qui nous raconte voilà, la mission entre Crozer et du coup Léon. Et remake, ce qui est bien, c'est que dans l'intro, déjà, ça nous tease que Crozer a entraîné Léon. Donc du coup, ça place le personnage pour la suite. Les gens ils disaient ah attends mais c'est béret rouge tout ça mais je l'ai vu dans l'intro donc c'est pour ça que j'ai l'original il aide aussi de ce côté là parce que bah, même ceux qui ont pas forcément fait l'opération Ravière même si elle est évoquée dans le 4 remake ça c'est vraiment ultra cool ils ont quand même une espèce de mention de Crozer via l'intro où on le voit en train d'entraîner Léon donc rien que là déjà c'est déjà plus amené que dans l'original où il était là bah voilà il y a ce personnage là qui existe et t'es là t'es en mode mais c'est qui.
Non mais c'est sûr, c'est vrai qu'il y avait des petites choses comme ça. Alors après ils étaient aussi limités techniquement par les machines de l'époque, par les capacités du disque en lui-même hein, d'ailleurs hein, sur GameCube voilà, c'était un format bien spécifique donc ils pouvaient pas mettre autant de données peut-être qu'ils le voulaient. Je sais pas si le lore change parce que moi j'ai jamais fait la version PS2 d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans le lore sur certaines versions de base ou pas?
Non, à part par exemple les versions mobile Zeebo qui sont moins complètes.
Oui.
Là, du coup, oui, il y a.
Ouais, vraiment, là, ils ont impacté beaucoup de choses. Ouais.
Mais sinon, toutes les versions restent semblables. Après, ce qui. Là, c'était Wiper qui me. C'est plus lui le pro de côté un peu les modes, tout ça. Il n'y a pas une exclue de Separate Ways dans une version et de Segment dans une autre.
Bon, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que quand je vois beaucoup les gens gueuler avec Separate Ways par rapport au remake du fait qu'il n'est pas inclus, ce qu'il faut s'appeler, c'est qu'il y a toujours un contexte et une historique que les gens ou les fans devraient prendre en compte. C'est qu'à la base, le 4 est sorti sur GameCube. On n'a jamais eu Separate Ways sur GameCube. Par contre, on avait Assignment Ada. Mais Assignment Ada, on s'est rendu compte que par la suite, finalement, c'est pas un événement finalement, je pense, canonique.
Non,
on a compris, il n'est pas canon. Alors à l'époque, ça a été beaucoup débattu. C'était oui, c'est canon. Finalement, ça devient semi. On ne savait plus trop. Là, officiellement, avec toutes les infos, on sait que bah, finalement, c'est vraiment du bonus. Mm. Et que ça a été pensé comme ça. Et du coup, quand il y a eu le portage PS2, là, on a eu Separate Ways qui est venu, en fait, implémenter une durée de vie supplémentaire. Et c'était pour inviter les gens à aller acheter, justement, la concurrence de Nintendo, donc d'aller chez Sony, en se disant, bah tiens, si vous avez aimé RE4, vous allez avoir un mode supplémentaire qui vous ramène Ada, qui vous ramène du lore, qui vous ramène de l'histoire. Et c'est toujours dans cette continuité marketing de Capcom qu'ils ont toujours fait ça avec les anciens héros, ce qu'on peut dire comme terme les old school, qu'ils ont toujours s'amusé quand ils faisaient un portage de rajouter des bonus pour fidéliser une clientèle à aller pas juste acheter le même jeu. Et moi, dans ma vision de souvent des héros, c'est que je dis jamais que aucun héros n'est jamais le même. Chaque portage a toujours une petite différence, ce qui fait que ça reste quand même un autre jeu, même si des fois ça se joue dans les détails.
C'est vrai.
Pour résister.
Et du coup, pareil, est-ce que vous vous rappelez, alors je pense que du coup vous l'avez fait plusieurs fois, donc ça va être assez simple de se rappeler de tout ça, mais des différents avancements dans les niveaux, des boss que vous allez rencontrer, est-ce que vous avez souvenir de tout ça et est-ce qu'il y en a certains qui vous ont marqué particulièrement?
Alors pour commencer, alors je sais pas ce que tu veux, original remake ou je sais pas trop par quoi commencer.
Alors ce qu'on peut faire, on peut commencer par l'original et puis du coup ta version remake, parce que certainement que ça change du coup avec le remake.
Ah bah, je dirais que l'original, forcément, un peu en chose marquant, forcément, il y a l'évidence de la technique, parce que comme tu disais un peu tout à l'heure, c'est un peu une grosse cassure, un bon gros choc pour pas mal de fans. Après, c'est assez subjectif et discutable. Donc, ma pensée ou ma vision que moi j'ai vécue n'est pas forcément celle de tout le monde. Je tiens toujours à rappeler cette règle, que ce qu'on dit reste un avis personnel et pas universel. Du coup, c'est vrai que, bon, techniquement, c'était quand même une claque. Graphiquement, cette vue à l'époque était quelque chose, oui, effectivement, qui était assez révolutionnaire. Moi qui étais dans RE, ce côté de l'implémentation des QTE, qui était quelque chose qu'on s'y attend pas dans les cinématiques. Combien de fois on n'est pas mort bêtement parce qu'on veut admirer la cinématique et d'un coup on voit l'action et du coup on comprend pas trop et on est surpris par le jeu. Et vraiment, en termes d'événements, ça a été les retrouvailles avec Ada. Ça a été un moment, moi, ça a été un gros choc parce que je ne m'attendais absolument pas à ce que ce personnage revienne et du coup, ça venait confirmer qu'elle a survécu. Je trouvais cette introduction en scène extrêmement claquant. Même la mise en scène, la manière où c'est filmé, ce talon de Ada avec le ralenti, etc. Bon, quand on sait, voilà, si on a regardé les films Matrix, on sait cette inspiration, etc., qui était amenée par Code Veronica aussi. Et du coup, on a une belle claque. Moi, c'était un événement fort. Je dirais forcément certains ennemis. Le Ganados à la tronçonneuse, surnommé Dr. Salvador un peu dans la commu, qui est un ennemi emblématique, parce que la première fois qu'on le croise, on perd un peu ses moyens. Et c'est vrai que cette scène du village qui vient directement te mettre dans l'action, te fait un souvenir direct de RE2 et 3, qui étaient des jeux qui te lançaient directement dans l'action. Donc tu n'avais pas le temps de comprendre ton gameplay, le jeu t'explique rien, t'as vite fait quelques manuels qui te sont donnés, mais c'est vraiment toujours dans cette continuité de te faire un espèce de tutoriel un peu agressif, mais pour que tu sais à quoi t'attendre. L'arrivée de la difficulté adaptative, au début on comprend pas, à certains moments un ennemi te fait extrêmement mal, pas trop mal, tu as beaucoup de ressources, moins de ressources, t'as un équilibrage qui était assez maîtrisé. Tout vraiment ces événements-là. Et en boss, j'ai envie de citer l'U3, ou surnommé aussi Hit, ça dépendra, parce que dans le jeu, Salazar dit Hit, bah Sadler, pardon, dit
Ouais,
Hit. Et ce boss, en fait, ce qui m'a. Je trouve que c'était déjà son design, ce qu'il est super effrayant. La première fois qu'on le croise, il est assez difforme, il a cette langue qui pend, c'est un peu chelou. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est son sound design. Et il m'a marqué parce que. À chaque fois que je rejoue, surtout avec le temps, depuis qu'on a les casques, etc., je me suis rendu compte qu'il avait vraiment un son très particulier et cette respiration profonde dans une arène un peu stressante, avec ces plateformes qui tombent, on a du temps, on est beaucoup à être pressé, tout en devant s'adaptant à un ennemi inconnu qu'on peut même pas le comprendre parce que il est très énigmatique dans ses points faibles, etc. Et du coup, ça va rejoindre un autre ennemi plus tard dans le jeu qui est celui qui a marqué, j'ai envie de dire, pas mal à 80-90% de la communauté, forcément les régénérateurs, parce que cet ennemi, première fois qu'on le croise, est particulier à combattre et surtout une respiration et une musique qui mettait des frissons et qui te mettait une claque et qui, moi, m'en a pas mal traumatisé à l'époque sur ce jeu où c'était des ennemis où, bah, 20 ans plus tard, voilà, j'en parle toujours avec une admiration de frayeur envers ces quelques passages du jeu.
Ouais, clairement.
Bon, c'était en gros.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait il y a des passages très marquants, vraiment, même sur le RE original, où, comme tu dis, l'arrivée dans le village, moi, c'est pareil, même encore aujourd'hui, je me revois gamin, quoi, gamin. Moi, j'étais déjà un peu plus vieux, mais en tout cas, plus jeune, je me revois plus jeune, en train d'essayer de combattre tout le monde. Et en fait, après, tu vas aussi comprendre qu'il y a des moyens de se cacher, de rentrer dans les maisons, etc. Tout ça, ouais, au premier abord, ça t'explose comme ça la tête, et c'est assez fou, quoi. Et voir aussi ce bûcher au milieu avec, tu vois, avec le policier, ouais, qui est là. Et ouais, je me souviens que c'était assez impressionnant. C'est vrai que j'avais qu'une télé cathodique, et aujourd'hui, quand tu redécouvres justement les jeux, voilà, avec un casque, ou sur les home cinéma, qu'on
C'est
peut
ça.
avoir aujourd'hui, on se rend compte déjà du travail qui avait été fait, quoi. On s'en rendait pas compte sur le moment parce que, on n'avait pas forcément le matériel adéquat, mais c'était déjà pensé, quoi. Et du coup, toi, pour toi, Ange Calot, est-ce que tu as des choses pareilles dans les, alors, même si c'est pas vraiment des niveaux, mais en tout cas dans l'avancée du jeu, qui t'ont marqué, ou des boss qui t'ont marqué particulièrement?
Bah, moi, ce que c'est qu'en fait, Resident Evil 4, du coup, vu que c'est le premier vraiment que j'ai connu et que du coup, il est toujours dans mon cœur, j'arrive pas en fait à le dissocier, à dire je préfère plus une partie que l'autre. Après, oui, il y a des légères préférences, par exemple, l'île, c'est une partie que j'aime un peu moins faire, mais c'est quand même un élément important du jeu. Donc, moi, c'est vraiment le jeu globalement. En fait, j'arrive pas à séparer, me dire tiens, j'aime plus ça que ça. C'est vraiment un tout. C'est vraiment le jeu complet qui me fait, tiens, ça j'adore ça, allez, je vais arriver là, ça va être cool, il y a ça, c'est un peu relou, mais après, voilà, il y a ça, c'est cool. Il y a vraiment, c'est vraiment un tout. Ouais, j'ai pas vraiment, après, voilà, un petit personnage un peu qu'on peut dire un peu emblématique, on a dans ce remake, on a le petit marchand. Je pense que lui, vraiment, c'est un des points forts du 4, autant remake qu'original. Ce marchand-là, parce qu'il a vraiment une présence, c'est cool, c'est ton vieux pote, quoi. T'aimes bien le croiser à des croisements, à certains endroits et tout, même revenir vers lui, genre, tu ramasses un trésor, tu fais, ah, bah, tiens, je vais le vendre pour vite ma petite arme, puis il arrive à salut, welcome stranger. Voilà, il est quand même un personnage emblématique qu'on peut pas renier du 4, mais voilà.
Ouais.
Globalement, pour répondre à la question globalement, c'est vraiment le 4 globalement qui vraiment me fait mon effet. Après, si je pourrais dire une version préférée, pour moi, c'est la version MetaQuest. Bah, du moins, sur l'original, plus clairement, on parle de l'original, c'est la version MetaQuest parce que du coup, elle commençait à corriger des problèmes qu'avait pour moi le 4 original, notamment le gameplay, où par exemple, on peut pas viser et marcher en même temps. Sur MetaQuest, on peut. Donc, rien que ça, déjà, pour moi, ça rajoute un petit plus, même si je priorise tout le temps la vue troisième personne, caméra dans l'épaule en priorité. Je suis pas trop fan de la vue première personne, les caméras fixes encore moins.
Ouais.
Mais voilà, la version MetaQuest 2 ou ouais, RTL 4, ou sinon bon, la version PS2, du moins la version PS4 vu qu'elle est en HD, même si la texture un peu baveuse parfois, c'est pas foufou.
Ok. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a parlé justement beaucoup de ce sound design et de l'OST. Est-ce que vous, il y a des choses aussi, bah voilà, que vous avez appréciées là-dedans en termes de DA. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez dire. Moi, j'ai souvenir vraiment des cinématiques qui étaient vraiment incroyables pour l'époque. Je pense vraiment ça m'a énormément marqué. Il y a plein de cinématiques qui marquent, ne serait-ce qu'au tout début, hein, quand ils se retrouvent dans l'église. Comme ça, c'est quoi? Il y avait des cinématiques qui étaient vraiment ultra fortes, je
Les
sais pas.
punchlines,
Ouais.
qui lancent en cinématique, il y a plein
Clairement.
de cinématiques à son rendu emblématique, grâce au punchline qui lance au milieu, le No thanks bro, il y en a plein de petites phrases comme ça, où est-ce qu'ils vont tous à un bingo, voilà, je vais pas parler en anglais parce que sinon on va perdre la moitié des auditeurs, mais voilà, il y a plein de petites phrases comme ça qui rendent du coup des cinématiques emblématiques, celle du bingo, c'était celle que tout le monde attendait dans le remake, dire est-ce qu'il va le dire, est-ce qu'il va le dire, est-ce qu'il va le dire, et quand on l'a vu dans la démo.
Dans le remake,
Atlantic Mode
l'original,
nous a confirmé ce passage-là, donc on était là, on était beaucoup à oh, il l'a
ouais.
dit!
Ah oui, ouais.
Il le dit!
Surtout que
Clairement.
ça a amusé le doubleur qui est Nick Apostolidis, qui lui, il a dit clairement là, sur son dernier stream que voilà, faire ce genre de ref, sachant qu'il est super investi dans le casting du doublage. Bref, c'est vrai que le 4 remake, il a eu un dernier marketing incroyable avec le casting qui se sont retrouvés pour faire un stream Twitch avec tous les acteurs. Ça a été un des moments où j'ai aussi le plus frissonné dernièrement de voir le jeu à peine sorti, que 3 jours après, tu as le casting intégral des doubleurs qui vient sur Twitch faire des blagues, des conneries, parler avec la communauté, donner des anecdotes de comment ils ont vécu à l'intérieur, le jeu, qu'ils vont jouer au jeu, qu'ils font les doublages pendant qu'ils jouent. Je trouve ça incroyable.
Ah, c'est vrai que c'était une grande fête et ils l'ont bien mis en avant, quoi. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de ce remake, c'est que voilà, on parlait du marketing tout à l'heure. Malgré tout, là, ils ont su faire avec les méthodes actuelles, avec les réseaux sociaux, avec Twitch notamment.
C'est
Et
ça.
ça, c'est important, quoi. C'est important. Tu parlais du remake tout à l'heure. Tu voulais rajouter des choses qui étaient différentes par rapport à l'appréciation que tu as pu avoir, Wiper?
Ouais, ben moi le remake c'est un jeu que je trouve qui a sublimé l'original, donc carrément tous ses points. Moi clairement je préfère le remake à l'original, ce qui est quelque chose d'assez rare, parce que même le 2 et 3 remakes n'ont pas réussi à atteindre ce niveau où je les préfère aux originaux, parce que malheureusement c'est des remakes qui ont eu des lacunes sur certains points. Et là le 4 remake pour moi en a très peu. Ce qui est assez rare aussi, que vraiment je trouve un RE qui approche une perfection. Les seuls que j'ai pu ressentir, c'est les originaux, jusqu'à la limite le remake du 1. Donc déjà, ça, c'est pour moi un point qui m'a pas mal marqué là, dans mon avis. Et c'est clairement beaucoup sur les personnages. Louis Serra est extrêmement incroyable dans ce remake,
Ouais.
dans son écriture, dans son doublage. Après, il est discutable pour beaucoup, je peux comprendre, parce qu'il peut avoir un humour un petit peu pas adéquat à tout le monde. C'est
J'adore lui.
un personnage très pièce de théâtre, inspiré d'œuvres théâtrales, etc., avec le Don Quichotte, etc., qui
Ouais.
plonge sur des œuvres littéraires et d'autres œuvres un peu plus références culturelles. Et à côté, on a une Ashley aussi qui. Bon, moi je reste toujours mitigé sur son gameplay, mais par contre, en termes d'écriture scénaristique et d'action et d'interaction et d'écriture de détails que ce jeu a à offrir, c'est incroyable. C'est vraiment pour moi une prouesse que Capcom a fait, c'est que vraiment chaque détail dans ce jeu, il y en a des milliers. Tu peux vivre une situation jusqu'à 5 fois, 10 fois différente. C'est quelque chose que j'ai pas énormément vu sur Twitch ou YouTube, que ce soit dans les découvertes des gens ou quoi, parce qu'on vit généralement dans des gens qui ont tendance à rusher un petit peu le jeu. Et en fait, c'est un jeu qui s'apprécie dans les détails. C'est pas forcément communiqué par Capcom, mais quand vous prenez le temps de des fois tester des trucs même qui vous disent oh, c'est illogique, ça sert à rien ce que je fais, vous allez vous rendre compte, oh, je débloque un dialogue supplémentaire, tel ennemi apparaît, il y a cette situation improbable qui m'arrive. Et en fait, c'est comme ça qu'on découvre des secrets, et c'est pour ça que ça alimente aussi son marketing, parce que bah, finalement, depuis quelques temps, il y a énormément de groupes Discord, de communautés qui sont faits pour aller chercher tous ces petits détails, ces secrets. Ça a vraiment créé un engouement qui se faisait un petit peu longtemps. De côté, c'est vraiment solidarité positive sur un jeu, et surtout sur ce Resident Evil nouvel opus, même si c'est un remake, ça reste comme un nouveau jeu. Dans la liste, et c'est vraiment ça, personnages, les créatures, et moi, à côté où je suis très sensible, c'est la musique dans le jeu vidéo, et ce remake nous a pondu des OST. Honnêtement, moi qui ai une oreille musicale en tant que pianiste, j'ai admiré certaines OST, mais profondément certains qui m'ont, quand je les écoute, j'ai des frissons, et je me dis, quand tu arrives à me faire ça, c'est qu'aussi dans ton côté travail musical, c'est que tu as réussi ton pari, parce que c'est autant génial pour des passionnés joueurs, voilà, qui sont passionnés de jeux vidéo, mais aussi pour moi qui fais partie d'un côté plus artistique et sensibilité, bah ce jeu m'a complètement réussi, alors que j'aurais pu être exigeant. J'ai quand même, voilà, certaines notions. J'ai fait des études aussi dans le côté accordage de piano et tout ça, donc j'ai quand même une notion technique des fois des instruments grâce à des professeurs que j'ai eus. Et ça m'arrive que je suis souvent difficile dans le côté harmonique, mélodieuse. Là, ce remake, je pense à la soundtrack Drive, qui est une pépite en guitare flamenco classique. Je suis pas pourtant musique classique, mais alors là, je l'écoute ces 2 minutes où je me dis encore, je pense avant qu'on a fait ce podcast, encore hier, c'est des OST que j'écoute en boucle ces derniers temps depuis la sortie du jeu. Celle de Salazar, qui est un rappel de musique classique, mais d'orchestral, qui vient plonger dans des musiques qui ont des volets de violon, etc., qui ramènent même, voilà, d'autres licences qu'on connaît, telles que les Parasitev. Parasitev 1 était connu pour avoir des musiques comme ça, très orchestrales, et ce 4 te rend hommage, parce qu'il y a ça aussi. Quand ils proposent quelque chose, Capcom a tendance à faire énormément de références à des œuvres, etc., d'inspiration, et moi, c'est ça ce que j'aime bien, c'est d'aller creuser ça, puis on se rend compte que finalement, il y a des hommages à d'autres jeux, il y a des hommages, etc., même dans des petits détails de sound design musical. On écoute un peu, on se dit, tiens, c'est des extraits de 10 secondes, tiens, ça me rappelle tes trucs, tu vas vérifier, tu dis, ah, exactement, ça reprend ça. Sérénité de RE4 Original, c'est une musique en fait qui est reprise d'un album, d'un groupe qui a existé, qui a ensuite été adapté pour Monster Hunter, qui a été adapté pour Silent Hill Origins, et tu te dis, putain, c'est incroyable, parce que tu retrouves des choses, d'autres fois, dans des genres rien à voir. C'est là la force aussi du talent de Capcom quand on parle de terme remake, quoi.
Non, mais c'est
Il y a
sûr.
aussi des références à Luc Besson dans RE4, quoi, avec
C'est ça.
Léon, Mathilda, donc t'as vraiment de tout, quoi, qui a rendu hommage dans les héros en général, et je te rejoins là-dessus, c'est génial.
Non, et clairement. Et justement, vous vous souvenez alors, la DA de l'époque, comment vous l'avez accueillie, et du coup, on parlera aussi de la DA du remake.
Pour moi, la DA, bon, me plaisait plutôt bien. Le seul détail que j'avais en problème, c'était le château, qui dans les feuilles veut rien dire. Dans l'original, t'as des pièces qui partent à gauche, à droite, t'as les trajets en espèce de petits trains là qui font n'importe quoi et tout. Donc ça, c'est vraiment le problème que j'avais avec l'original. Donc non, globalement, ça allait. Et le remake m'a réconcilié avec ce problème-là, parce que le remake, le château est magnifique. Autant visuellement que du coup intérieurement avec les pièces, il y a l'ajout des remparts que Jack Whipper parle beaucoup et que j'ai oublié de parler notamment dans mon avis, dans mes souvenirs. Lui, vu qu'il en parle, je sais pas, il me fait mais oui, l'ajout du rempart c'est ultra cool de pouvoir avoir du rempart et pas juste des pièces où t'es enfermé ou à la rigueur t'as une petite fenêtre pour dire regarde, t'es dans le château. Non, là t'as vraiment du rempart où tu vois le château un peu de l'extérieur en étant à la fois à l'intérieur et ouais. Le château, c'est vraiment pour moi le point noir côté DO, même s'il est beau dans l'original, je dis pas le contraire, il y a des pièces vraiment, j'adore rentrer dedans, notamment celle où à côté, il y a des statues, et à droite, il y a les fenêtres grandes ouvertes, c'est là où on doit mettre les deux calices, la calice du roi et de la reine. Bon, ceux qui font facile, ils ont que la calice de la reine à mettre de mémoire, pas celle du roi, ou l'inverse, une des deux, bref. Et voilà, ce petit couloir-là, je trouve vraiment magnifique. Par exemple, Water Hall, même si c'est une salle vraiment casse-bonbon, je la trouve vraiment très, très jolie comme pièce. Et donc voilà, l'original, c'était joli, mais dans ce que ça racontait, c'était pas foufou. Là, le remake, pour moi, il m'a vraiment réconcilié avec le château. Et puis les autres lieux, bah, il les a sublimés encore plus, autant le village que du coup l'île. Et voilà, donc globalement, rien à dire sur la DA de plus, de
Ok.
mon côté.
Et du coup, toi, bah, Wiper, concernant la DA, comment t'avais accueilli la chose?
Bah, à l'époque, j'avais bien accueilli la partie du village parce que grand fan de Silent Hill et moi directement j'ai retrouvé cette ambiance un peu cliché certes parce qu'il y en a ils vont dire ouais mais le brouillard ça fait pas que Silent Hill, je suis d'accord, mais je pouvais pas m'empêcher de mon regard d'enfant, voilà, de 10 ans, peut-être 12 ans, je me rappelle même plus exactement. Forcément, j'aimais, moi, ce côté d'avoir une forêt comme ça sombre, un brouillard, ce choix de couleurs très froid, etc. Il y avait vraiment une ambiance. Du coup, la partie du village, vraiment rien à dire. La partie du château, je sais qu'à l'époque, j'étais un peu dubitatif parce qu'on retrouvait de l'intérieur. Il y a des salles qui sont jolies, mais en même temps, il est fait d'un level design très particulier qui va un peu dans tous les sens. Et du coup, je commençais à perdre un peu le goût de ça, mais j'étais en haleine parce que ça restait qu'en termes d'ennemis, d'action, et je trouvais que ça restait quand même convenable. Et après, arrivé à la partie de l'île, moi, pareil, pendant des années, ça a été ma partie pas du tout voilà, préférée. Certaines zones sympas. Justement, la première partie de l'île, ça restait très correct. Mais arrivé à la seconde, ça devient, en termes de map, tu vois une gigantesque, quasiment que des arènes. Tu dis, ok, j'ai trois boss d'affilée à affronter. Je trouvais que, ouais, y avait un manque de créativité. Ça devenait du décor simple, froid. Les pièces étaient de moins en moins détaillées. C'était beaucoup de caissons, de cartons comme ça mis dans des pièces, un petit meuble et tout. Et je trouvais ça dommage, parce que nous, on est quand même habitués dans Resident Evil à du détail. Parce que ça le paraît pas, mais les 1, 2, 3, même si c'était des jeux PlayStation, caméra fixe, c'est des jeux qui étaient fourmillements, qui avaient vraiment un détail de taré en termes de caméra fixe et de décor précalculé. Et du coup, quand on est habitué à ça, bah, on se dit avec la technologie nouvelle, qui est quand même la GameCube, etc., on s'attendait à avoir quand même pas mal une claque. Et c'est assez déséquilibré, je trouve, dans le cadre original. T'as autant des moments incroyables en DA que d'autres moments où tu sais pas trop si c'est. Des fois, il y a un manque de temps ou quoi. Donc, moi, après, je prends toujours un peu de recul parce que je me dis, on sait que c'est un développement chaotique. Peut-être qu'il y a du rush, peut-être qu'il y a des employés qui ont fait ce qu'ils peuvent et tout. Donc, voilà. Après, ça, on parle avec le recul. Mais si j'aurais été à l'époque, oui, j'aurais été beaucoup plus sévère. Et c'est tout plein de détails qui ont fait que j'ai eu pas mal d'années un avis assez négatif sur le jeu.
Ouais, et c'est vrai que on en a parlé tout à l'heure, mais il faut vraiment appuyer sur le fait que je pense que ça a été le RE avec le développement le plus compliqué, quoi. Et ce qui fait que il y a eu des choses. Alors je veux pas dire qu'ils les ont fait peut-être à la va-vite, mais ils étaient quand même
Il y a
pris
des
par le temps,
chances.
quoi.
Quand même,
Donc.
par exemple, le scénario en 3 semaines, il a été écrit.
Ouais.
Avec ça, déjà, on sent que c'est un peu rush.
Sachant que le petit détail aussi tout bête, c'est que Shinji Mikami, il est réputé pour être un directeur et enfin réalisateur de projet assez difficile,
Ouais.
très méchant, très strict, qui a énormément causé de troubles à Capcom, autant pour ses humeurs, autant que pour ses choix, autant que dans sa façon de manager ses équipes. Et justement, c'est expliqué très bien dans ce livre de Alex Haniel, Resident Evil de l'autre côté du miroir, ou Itty Testy. Et dans beaucoup de ces paragraphes, Alex Haniel, une des personnes qui a eu la chance de dîner plusieurs fois avec les développeurs assez connus, voilà, de RE, et lui disait que dans beaucoup de repas, il a vu des choses qui révèlent aussi un peu l'ambiance que c'était, et notamment pour le 4, on sait que ça a été mélangé entre de la colère, des moments où ils ont fait des réunions bourrées, à des 4 heures du matin, des manques de sommeil, et ce contexte qui nous fait rire à l'heure d'aujourd'hui, bah, faut se dire qu'avec le recul et tout, on comprend aussi des fois un peu certains aspects qui peuvent avoir loufoque dans RE ou pour Biohazard au Japon. Et du coup, ça donne aussi un petit peu de contexte aussi sur les défauts du jeu.
Ouais, clairement. Du coup, je sais pas si on peut parler également du gameplay, justement, de ce gameplay particulier.
Bah, pour le gameplay, clairement, déjà, c'est une grosse évolution. Il est très poussé pour l'époque. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est un type de gameplay qui a révolutionné un peu l'industrie du jeu vidéo parce que ce choix de caméra à l'épaule va inspirer énormément d'œuvres, hein, Dead Space, Gears of War, Uncharted, etc. Je dirais que oui, c'était. Bah, c'était une nouvelle façon d'aborder le jeu en question, les jeux vidéo en question, Hero aussi, parce que voilà, les caméras fixes, on est limité, haut, bas, milieu, comme c'est dans son nom, c'est une caméra, donc en termes de déplacement, c'est pas très ergonomique, ça peut être compliqué, alors que là, le 4, bah, facilite tout et devient un jeu clairement ouvert à tout public et qui pour l'époque, n'avait. Pour moi, je pense rien à dire. Le seul défaut qu'on a rétrospectivement, c'est ce fait de maintenant de se dire bon, ne plus bouger en visant, c'est compliqué. Mais en fait, à l'époque, bah, c'était quand même une claque parce que justement, le jeu n'est pas que un défaut voulu, ça a été pensé en fait. Je pense justement, pour citer un vidéaste qui s'appelle Bassenroll, qui parle beaucoup de ça, il explique souvent, lui, de son point de vue, de ce qu'il sait, c'est que voilà, ça a été aussi pensé. À être comme ça, ça a été voulu en fait qu'on puisse pas se déplacer. C'est aussi un choix directionnel de l'équipe de développement par rapport à la machine, par rapport à leur ambition qu'ils voulaient du 4. Mais ouais, globalement, j'ai pas spécialement plus à dire. Je dirais juste que ça a été un gameplay révolutionnaire en tout cas pour son époque et surtout qui a rendu très accessible la licence.
On arrivait dans Resident Evil, mais en plus, on avait cette phase d'exploration qu'on ne pouvait pas avoir avant, quoi. Et la liberté de mouvement que ça apportait, de se dire, bah, j'ai enfin un perso. Alors, même si quand il tire, il ne peut pas bouger, le reste du temps, il était mobile beaucoup plus que ce qu'on pouvait retrouver que sur une caméra fixe, quoi.
Ah, les originaux, ils peuvent pas bouger non plus quand ils visent.
Oui, pour vous, il y a une version qui sort du lot, ou un mode peut-être, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de modes sur RE4. Je ne sais pas si vous voulez en parler. D'ailleurs, ça peut être intéressant de parler de certains modes qui ont amélioré des choses.
Bien sûr.
Et du coup, savoir s'il y en a un en particulier, une version et ou un mode, du coup, qui vous a plus plu que d'autres.
Je vais être rapide, donc je vais commencer.
Vas-y.
Parce que voilà, j'ai dit beaucoup de fois la version VR, pour moi, est la meilleure version. Cependant, je prends une petite, je pense que Viper en parlera aussi, le Resident Evil 4 HD Project, qui est du coup un projet HD qui rend le jeu magnifique de base. La Viper, il évoquera plus le truc, parce que lui, il a vraiment été dans le fond du sujet. Moi, voilà, j'ai juste vu visuellement. Mais visuellement, c'est magnifique. Les mecs, ils étaient que deux à bosser sur le projet. Et en 8 ans, ils ont pondu un remake, une version HD, un HD remaster énorme, avec des détails sublimés, les personnages et tout. Donc, mais après, ce qu'il y a, c'est que c'est exclu PC. Donc, pas vu que je suis un joueur console, je l'ai non en los.
Ouais.
Mais voilà. Donc, du coup, si je pourrais dire la version VR, mais sinon en mode le HD Project.
Ok. Et du coup, pour toi, Wiper, si tu aurais une version à dire et ou un mode, du coup.
En version, moi je dirais la version Wii, parce que ça a été une version que j'ai adorée, qui est ma version préférée à ce jour. J'ai pas eu l'occasion de faire la version VR, donc je suppose que la version VR me dépasserait ma version Wii. Mais la version Wii, parce que je trouvais c'est incroyable pour l'époque d'avoir avec la Wii déjà ces possibilités de gadgets en termes d'un peu d'immersion augmentée qui proposait, d'avoir ce côté où dans le jeu tu pouvais viser vraiment avec une précision chirurgicale à l'écran, que tu avais des animations que tu pouvais faire avec ta Wiimote, si tu faisais comme ça, tu rechargeais ton arme, si tu te mettais comme ça, tu frappais à l'avant, tu faisais le couteau. Je trouvais ça incroyable, je me disais, c'était des sensations incroyables que nous proposait la Wii.
En vrai, ça s'approchait d'un peu ce qu'on pouvait vivre sur certaines bornes d'arcade à l'époque.
Exact.
Moi, tu vois, qui ai connu The House of the Dead,
T'as raison.
et quand tu vois, j'y ai joué beaucoup en arcade, bah, moi, avec la Wii, j'ai ressenti tout ça. Tu vois, j'avais acheté même que j'ai encore, hein, le truc qui permettait d'en faire un pistolet. Et c'était super immersif pour l'époque. Alors, encore une fois, voilà, faut se remettre dans le contexte, hein. La Wii, c'était il y a quelques années. Je présume que la version VR, pareil, doit être ouais, tu vois, super intéressante. Malheureusement, j'ai pas de casque VR, mais jusqu'à présent, c'est vrai que la Wii apportait c'est la seule version où il y a une vraie immersion, tu vois, différente de ce qu'on peut retrouver avec
C'est
des
ça.
gameplays plus classiques, quoi.
Ouais, exactement. Et justement, moi, je cite souvent un peu une autre œuvre que de la Wii, qui est justement Silent Hill Shattered Memory, qui a été un jeu qui m'avait mis une claque sur l'exploitation des possibilités que proposait cette console. Du coup, j'ai comme ça pas mal de petits jeux qui m'a vraiment admiré à l'époque sur cette espèce d'accessibilité, de réalité augmentée petit à petit qui se proposait, hein, parce que souvent on cite le VR, mais. Mais historiquement, on a eu plein de gadgets, hein, le GunCon sur PS1, ce genre de choses. Voilà, on a eu les premières caméras aussi sur PS2, etc., PS3, etc. Donc, on a eu toutes des petites gadgets petit à petit qui nous amenaient un petit peu à ce côté de vouloir un peu s'intégrer dans nos œuvres préférées. Et du coup, ouais, la version Wii pour tout ce que j'ai cité, et puis aussi c'est parce que c'est un peu peut-être aussi nostalgiquement une des versions où j'ai été un peu le meilleur sur Hero 4, parce que c'est vraiment un jeu où j'avais une maîtrise totale et où je faisais mes meilleurs scores, mes meilleurs runs, donc je dois avoir un petit attachement émotionnel là-dessus. Et en deuxième, bah, Angelo m'a devancé, il me connaît très bien, très clairement je suis obligé de citer le Project HD qui a été réalisé par deux personnes, deux fans qui ont investi 8000 euros. Oui. Qui est quand même une première assez fou dans la communauté, qui a carrément fait des voyages pour aller en Espagne sur les lieux à peu près originaux d'où il y a eu les inspirations pour les textures. Et jusqu'à ce jour, en fait, ils ont explosé le rendu par rapport à une vraie version physique de Capcom. C'est ouais. Unanime. Grosse pensée à un streamer qui s'appelle Undead Matt, qui dans un des derniers podcasts qu'on a fait en blagué en disant que voilà, c'était incroyable de voir à quel point les fans pouvaient être meilleurs finalement que les devs. Et nous, ça nous fait rire parce que c'est tellement un peu amusant de se dire qu'on est devenu meilleur, alors que c'est pas le but, hein, on reste dans du plaisir, mais on est quand même des fois techniquement meilleur que des développeurs à qui ils ont fait des études, c'est leur métier, qui sont censés être les boss de ce que nous on consomme. Et c'est toujours amusant quand on fait la comparaison de se dire qu'il y a des fans qui font mieux, quoi.
Je suis vraiment d'accord avec toi parce que on a parlé la semaine dernière d'une licence qui était Zelda et il y a des versions sous Unreal qui sont incroyables, notamment Ocarina of Time, qui sont folles. Et de se dire qu'il y a des gens qui sont capables de dev ça et que bah, quand il y a un remake ou un remaster qui sort et que tu vois le résultat, tu vois, tu te dis bon. Tu restes toujours un peu sur ta faim, quoi. Après, ils sont obligés de faire avec les contraintes, tu vois, les contraintes des consoles, des PC. Il faut que ça soit portable, que le portage puisse être fait sur le maximum de supports. Et c'est toujours, tu vois, c'est toujours compliqué aussi, je pense, pour les équipes de dev. Ils ont des limitations, mais ouais, moi j'adore ce que les fans font et le HD Project. Je suis d'accord avec vous, c'est un truc de fou, quoi. C'est quand tu regardes les trailers qui passent sur YouTube, tu te dis waouh, c'est incroyable. J'invite tout le monde, hein, même là on est en podcast.
Ah oui, clairement.
Vous pouvez pas voir, mais faites des recherches, vous tapez Resident Evil 4 HD Project. Voilà, vous allez trouver directement et c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, quoi.
Ils ont même fait un petit détail d'immersion que j'ai trouvé cool. Alors si j'ai pas de bêtises, vous pouvez pas me confirmer, mais normalement je crois qu'ils ont mis Jacques Chirac en photo.
Bah, c'est vrai qu'ils ont rajouté, en fait une zone spéciale Easter egg.
Ouais, y a
je pense que.
Mais en fait, sur le petit panneau sur l'île, à un moment où il y a des photos, des trucs comme ça, puis tu peux voir la photo du coup de Jacques Chirac qui était président à l'époque.
D'accord, c'est excellent.
Et ouais, du coup, t'as Jacques Chirac qui était incrusté en photo dans Resident Evil 4 HD Project.
Trop bien, trop bien. Et justement, est-ce qu'il y a des choses comme ça, des petites anecdotes et petites choses peut-être cachées dans le jeu que vous avez appréciées ?
Il y a beaucoup de d'inspiration, de ce genre de choses. Il y a beaucoup d'easter eggs, hein, quand même. Après, RE4, j'ai pas eu l'occasion de savoir tout lister parce que c'est un des jeux qui est pas évident. C'est moi, on va dire peut-être au moins le moins fourni que par exemple des héros plus classiques ou même certains autres héros plus récents, mais il y en a quelques-uns. On a quand même beaucoup d'inspiration dans la technique. J'ai parlé de QTE avec Shenmue, on a le codec emprunté de Metal Gear Solid, on a beaucoup d'inspiration de films, beaucoup parlé dans des interviews de développeurs, etc. Les références à La Nuit des Morts Vivants, 28 jours plus tard, The Thing, Massacre à la tronçonneuse, le film The Crazy, Projet Blair Witch, qui est quasiment le modèle de base pour le premier quart du jeu avec l'environnement du village. On a Alien, Indiana Jones. Alors Indiana Jones, c'est plus pour le côté de la mine dans le château.
Les rochers aussi qui te courent après.
Les rochers qui te courent après, qui est clairement les premières mécaniques. Et sachant que le délire Indiana Jones s'est vraiment mis en avant avec le remake, où toute la phase Léon, Lewis, très clairement, tu revis des scènes d'Indiana Jones dans le
Wagon.
Dans le wagon, ouais, exactement. On a le Seigneur des Anneaux pour les inspirations telles que le El Gigante, etc. On a même jusqu'au premier film de Resident Evil, hein, avec d'Anderson pour le couloir laser, qui sera repris dans The Umbrella Chronicle, dans la chute d'Umbrella, qui était un scénario inédit. Le Hookman, même si c'était de la version 3.5, et que finalement on peut avoir certains détails architecturaux dans le remake par rapport aux accessoires, ça vient quand même une inspiration de Souviens-toi l'été dernier, un film d'horreur assez connu. On a des petits détails assez amusants, je trouve, dans le jeu, assez subtils, tels que le Killer 7, qui est l'éponyme signé de Suda 51, voilà, des références à No More Heroes, Shadow of the Town, des choses qui ont été produites par Shinji Mikami. On avait parlé, la Mathilda, référence à Léon de Luc Besson, le délire des R4 qui est un gros hommage à justement ce film de Léon The Professional, parce que The Professional, c'est une des difficultés qu'on a dans le jeu. Nathalie Portman interprète Mathilda, et tout le délire de ce film rappelle le jeu, parce que c'est un tueur à gages qui finalement protège une fille et décide de devenir son protecteur, et finalement, même si le scénario du 4 est différent, on garde le principe d'être un Léon surentraîné qui protège la fille du président, donc on a quand même une base solide. Le film Nikita va inspirer Separate Ways pour Ada Wong, avec notamment l'artwork de l'écran titre. Puis, bah, dans le côté anecdote un peu même amusant, parce que c'est même en termes de gadgets, et Ange Callot le montrait à l'écran, mais les manettes tronçonneuses. Ouais. C'est quand même un délire assez marrant de se dire que le jeu a tellement plu qu'on va carrément designer un petit accessoire comme ça, même si c'est pas le meilleur des conforts, mais au moins... Ouais. Ça permet l'amusement des fans, et puis bah, le côté rentabilité financière pour l'entreprise aussi.
Oui, bah, après, ça permet de sortir des goodies, et c'est toujours bon pour le business. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de refs, et notamment des refs cinématographiques.
C'est ça, cinématographiques. Un petit peu littéraire et tout, quand on regardait certaines choses, hein, souvent les tableaux, ce qui est expliqué notamment dans le château de Salazar, il y a beaucoup d'études. Je pense beaucoup à une personne active qui s'appelle Welsh dans la communauté, qui est un ancien de Daymark 98. En dev, et qui a énormément bossé sur les archives d'RE. Hein. C'est un des premiers qui a réussi à trouver des concept stars inédits de Resident Evil 3 Nemesis, qui est une première en 2023. Donc, vraiment un mec qu'on a la chance d'avoir, et qui donne son savoir accessible à tout le monde. Et on a plein de gens comme ça très talentueux aux États-Unis qu'on peut remercier pour tous ces travails de recherche.
Clairement. Et du coup, on avait une dernière partie à voir. Alors, qui n'est pas la partie la plus intéressante, mais que malgré tout, c'est un peu l'Argus de tous ces jeux, et de dire aux gens de faire attention, parce que j'ai pu voir, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les annonces dernièrement, mais il y a toujours le fait qu'un remaster sorte sur sur les consoles next-gen, les gens vont en profiter pour abuser sur le prix des anciennes éditions.
Ah, ça.
Et du coup, bah, voilà, c'est aussi un moyen de dire, bah, faites aussi attention à ça, ne tombez pas dans les panneaux, parce que moi j'ai regardé une version GameCube, on arrive à en trouver à 20€, et je pense que, tu vois, c'est moi je me verrais pas mettre plus de 20€ dans un RE4 classique, hormis s'il est en parfait état, sous blister ou quoi, ou là c'est autre chose, mais dans un RE4 basique. Sur la PS2 on en trouve à moins de 10€. Pareil sur le Wii, on en trouvait autour d'une dizaine d'euros. Et après, sur PC, on a le HD Ultimate Edition qui est dispo à 6€ sur Steam. Et voilà, et le remake qui est dispo, donc un petit peu partout. Vous pouvez l'avoir en démat autour d'une quarantaine d'euros. Donc voilà.
Les erreurs, en vrai, ça prend une cote de fou. Hein. Par exemple, je vous montrais la manette tronçonneuse. Je l'ai prise il y a 2 ans à celle-là, la version PS2, je l'ai prise à 120€. Et la version GameCube, je l'ai prise à 220 il y a 2 ans. Là, maintenant, elles atteignent les 350€.
Ouais.
Donc, il y en a une des deux qui a quand même pris quasiment 230€ en 2 ans, avec l'arrivée du 4 remake et la montée surtout de la saga Resident Evil, qui maintenant n'est plus un truc... Je dis pas que de base c'est de niche, mais c'était quand même un peu plus dans son coin. Mais depuis, j'ai envie de dire le 7...
C'est très démocratisé.
C'est beaucoup plus ouvert, le 2 remake a aidé encore plus à ça. Et du coup, maintenant, RE, bah, les gens, dès qu'ils ont du RE et qu'ils datent un peu, hop, c'est maintenant ils mettent des prix de fou en disant, bah, tiens, voilà, et je pourrais me faire de l'argent dessus sur le dos de quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui me fait un peu liège personnellement en tant que collectionneur, c'est de voir tous ces gens qui n'ont même pas l'amour de l'objet, ils ont juste l'amour de l'argent qu'ils peuvent avoir derrière.
Ouais.
Ça, c'est vraiment le truc que je trouve dégueulasse.
Non, mais ça. Ouais, et c'est valable dans tout, hein, quoi. Le rétro gaming en général. Quand je vois ce qui est devenu la GameCube, par exemple, moi qui est ma console de cœur, il y a des prix qui sont hallucinants, quoi. Aussi bien sur la console, que tu trouvais à 5 € ou 10 euros il n'y a pas si longtemps, que sur les jeux, quoi. Il y a des jeux qui atteignent des sommes astronomiques.
R2 GameCube, maintenant il atteint les 200 €, quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors, moi je l'ai payé 110 il y a 2 ans, 3 ans.
Mais c'est des jeux qui sont bien vendus. Ouais, tu vois, c'est pas des jeux. Comme pareil, moi je suis très fan des licences Zelda. Quand je vois des Wind Waker à 150 €, bah, tu vois, ça fait chier, quoi.
Totalement. C'est ça.
C'est des jeux qui ont été vendus à des millions d'exemplaires. Je trouve ça juste fou, quoi. Et bah, merci encore à vous deux. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis, bah voilà, vous revenez quand vous voulez pour parler de RE. On se recontactera.
Bah, partagé.
C'est l'invitation, on vient.
Clairement.
Exactement. Et puis voilà, moi, je vous fais des bisous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.
Ciao tout le monde.
Ciao tout le monde.
Je vous rappelle qu'on se retrouve sur Twitch les mercredis à 18h et également sur toutes les plateformes audio les jeudis à 18h. La semaine prochaine, on va traiter de Super Mario 64 avec de nouveaux invités. Et la semaine suivante, des Chevaliers de Baphomet. Sur ce, je vous dis à très bientôt et merci pour l'écoute du podcast. Pensez à vous abonner, à liker, à partager.